le pillé haut. Ce monde est corrompu, gouverné par tous ces escrocs. Babylone écrase le peuple et t'as fait mal son boulot. Le combat continue même s'il faut y laisser la peau. En gros si nous endormes, assassinent nos frères et nos sœurs. Faut croire que ça est facile de faire couler le sang, les pleurs. Ne vois-tu pas nos mères, les larmes noyées dans la douleur. Mes races et ma couleur, c'est ce qui me reste au fond du cœur.
Dans la rue à Marseille,
quand un tiers est tombé.
Dans la rue à Strasbourg,
la des portes des droits.
Dans la rue à Toulouse,
la vie dans le pont Saint-Michel.
Dans la rue à Rennes,
réprimée jusqu'à Saint-Paul.
Dans la rue à Paris,
rendez-vous au métro Bastille.
Dans la rue à Lyon,
fait pour un hôtel de ville.
Dans la rue à Lyon,
ne pas placer public.
Dans la rue à Bordeaux,
marchons jusqu'à tomber par là. Nos enfants de la patrie, pays des immigrés, culture déracinée, population métissée, démocratie en danger, cas sociaux oubliés, locataires de la pauvreté, citoyens de l'insécurité. Libre et trop embrasse la chose qu'on revient revendiquer. Partage des richesses, la réforme doit être instaurée. Les partis politiques d'extrême droite éradiqués. Aux urnes citoyens, aux urnes citoyens.
Dans la rue à Marseille,
la vie est déformée.
Dans la rue à Strasbourg,
la des portes des droits.
Dans la rue à Toulouse,
la vie dans le pont Saint-Michel.
Dans la rue à Rennes,
réprimée jusqu'à Saint-Paul.
Dans la rue à Paris,
rendez-vous métro Bastille.
Dans la rue à Lyon,
fait pour un hôtel de ville.
Dans la rue à Lyon,
ne pas placer public.
Dans la rue à Bordeaux,
marchons jusqu'à tomber par là.
Dans la rue à Marseille,
la vie est déformée.
Dans la rue à Strasbourg,
la vie des portes des droits.
Dans la rue à Toulouse,
dans le port Saint-Michel.
Dans la rue à Rennes,
réprimée jusqu'à Saint-Paul.
Dans la rue à Paris,
rendez-vous métro Bastille.
Dans la rue à Lyon,
fait pour un hôtel de ville.
Dans la rue à Lyon,
ne pas placer public.
Dans la rue à Bordeaux,
marchons jusqu'à tomber par.
Amikir, Toco Blaze, le Viking des Roseaux, Booster Blaze, Royal Chicks, Ender Magnetic Slab, Union, ni d'en haut, ni d'en bas, juste citoyens du monde.
Yes! Vous êtes bien toujours sur Radio Canu, donc on a pu écouter Afrique ne paie pas. C'était suivi de Systamiki avec Toco Blaze accompagné de Bouga pour Dans la rue et du pain pour l'usina, la plus rebelle des radios. Yes.
Bonjour. Pour la première fois sur Radio Canu, l'émission Honneur du prolétariat.
Yeah.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu. Donc ce soir, pour la première fois, l'émission Honneur du prolétariat. Donc voilà, c'est mon premier jour. Donc voilà, comme un premier jour, tout est nouveau, tout est neuf. Et vu que c'est moi aussi qui suis obligé de faire la technique, je vais sans doute me prendre les pieds dans le tapis à un moment. Donc vous serez indulgent, je suis sûr. Et puis de toute façon, c'est Radio Canu, je pense que vous êtes habitués à ce qu'il y ait toujours un petit problème technique ou quelque chose comme ça qui fasse que ça paraît tellement plus vivant que d'autres radios, disons. Donc voilà, l'émission s'appelle Honneur du prolétariat. Alors pourquoi ça s'appelle Honneur du prolétariat? Déjà, c'est parce qu'il fallait un nom. Alors je ne savais pas du tout quel nom donner à l'émission. Et voilà, j'en ai discuté avec des amis. Et puis il y en a un qui m'a sorti ce nom-là, comme ça. Et en fait, je lui ai un peu demandé d'où ça sortait. Et donc Honneur du prolétariat, c'est un peu un nom légendaire. Ça vient d'un pseudo-groupe gauchiste qui aurait existé et qui se serait formé en réaction au groupe Honneur de la police. Donc, Honneur de la police, je pense que tout le monde a un peu oublié ce que c'était. C'était un groupe composé d'anciens barbous, d'anciens de l'OAS, mais aussi on sait pas trop vraiment si ça existait ou si c'est un peu une manipulation, on va dire. Donc Honneur de la police a revendiqué de nombreux meurtres, comme celui de Henri Curiel, qui était un porteur de valises et qui a aussi participé à un groupe qui formait des militants pour la lutte de soutien au peuple du tiers-monde dans les années 60. Donc c'était un peu, des fois on l'a soupçonné de former des terroristes, hein, entre guillemets. Et Honneur de la police a aussi revendiqué le meurtre de Pierre Goldman, donc qui était un gauchiste avec 68 arts et qui a aussi la particularité d'être le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. C'est ça qui l'a rendu connu, sans doute. Non, je rigole. Donc voilà, tout ça pour dire que Honneur de la police, en fait, était couvrait aussi les agissements du GAL, Groupement Antiterroriste de Libération, qui était une officine des services secrets de Franco qui chargeait de tuer des réfugiés espagnols en France. Voilà, donc je ne savais pas quel titre prendre pour l'émission et ça m'a paru sympa de reprendre le nom d'un groupe formé en réaction à ces crétins d'honneur de la police. Donc voilà, même si ce groupe, n'est-ce pas sûr qu'il existait, Honneur du prolétariat, je me suis dit que ça sonnait bien et que c'était... ça valait la peine de le prendre. Donc voilà, et quel rapport avec mon émission? Donc vu que le thème c'est d'inviter des gens à venir parler de leur activité, donc un peu des prolétaires quelque part, mais que cette activité soit aussi une passion, donc c'est un peu honneur, fierté, voilà. Donc voilà pour ça, Honneur prolétariat, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. À un moment, j'avais hésité à appeler l'émission Fierté prolétarienne, mais je me suis dit bon, que c'était un peu exagéré. Donc voilà, on en reste là pour l'instant. J'espère que Honneur de la police viendra pas régler ses comptes avec moi bientôt. Voilà. Donc, c'est une émission avec un invité. Donc voilà, j'ai donc un invité pour ma première émission, ce qui est un miracle que quelqu'un accepte de venir me voir. Donc voilà, c'est donc... Donc voilà, c'est donc Mimo qui est un des fondateurs des éditions Atelier de création libertaire. Donc je vais t'inviter à dire bonjour au public pour voir si le micro marche.
Bonjour public.
Voilà, bah, tout marche. Comment commencer? On pourrait commencer par...
Par poser une question à celui qui présente l'émission. Oui, qui es-tu?
Vas-y. Qui es-tu? Je sais pas, je suis un des membres clandestins du groupe Honneur du prolétariat.
Et que tu t'appelles comment?
Pour l'instant, c'est très indiscret ta question.
Bon, très bien. On verra.
On verra si j'en dis plus. Peut-être les émissions suivantes, j'en dirai peut-être un petit peu plus. Donc je vous invite, pour me connaître, à écouter les émissions suivantes. Voilà, donc... D'abord, je peux t'inviter à te présenter, à à nous dire comment t'es arrivé à Lyon, peut-être pourquoi, si c'est pas indiscret, un peu ton parcours sur les raisons de ton arrivée, sur
oui.
comment t'as débarqué sur les pentes, si c'était dans les pentes.
Bon, ben, je vais faire une émission que pour toi et les 50 personnes qui vont nous écouter dans la vaste région lyonnaise. Bah, comme beaucoup d'alternatives croatiens savent, je suis arrivé à Lyon au milieu des années 70, en 75, septembre-octobre 75, pour éviter de partir à l'armée. Je suis arrivé ici un petit peu par hasard parce qu'en réalité je voulais arriver à Paris et puisque pendant une année j'étais à Rome en Italie donc où j'avais entrepris des études de psychologie que je n'ai jamais vraiment poursuivi là-bas. Et pendant cette année de permanence à Rome, en fait, je fréquentais les locaux d'un hebdomadaire anarchiste italien qui s'appelait et s'appelle toujours Humanità Nuova, et c'est là que je lisais régulièrement Le Monde Libertaire qui était fait à Paris. Et je ne connaissais de France que Paris, Ce Monde Libertaire. Et quelques raisons de penser que Paris, il y avait beaucoup de choses à faire et à dire. Et en fait, il s'est passé qu'un ami insoumis comme moi, il m'a dit non, mais c'est pas la peine d'aller à Paris, viens à Lyon. À Lyon, il y a plein de monde et des choses intéressantes qui se passent. Et là, je suis tombé dans un plan dans la marmite Colbert. Si on peut dire, c'est pas vraiment la marmite Colbert, mais je suis tombé au milieu de la Croix-Rousse, rue Burdeau, où une copine qui s'appelait Marie-Vonne Marcoux avait ouvert, plus ou moins avec des gens, un restaurant qui s'appelait les Tables Rabattues, ça viendra après, s'appelait donc le café au goût du canon. Et là, j'ai commencé à travailler dans ce restaurant qui était entre guillemets autogéré, mais à quelques pas de là, il y avait aussi le local des anarchistes au 13 rue Pierre Blanc, et l'aventure croix-roussienne commençait à ce moment-là.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu le milieu des pentes? Parce que moi, un peu ce que j'ai toujours entendu dire, c'est que maintenant, il se passe plus rien et qu'à l'époque, il y avait plein de choses. Et du coup, est-ce que c'était...
C'est incroyable. Tout le monde me pose toujours cette même question et il se passe pas grand chose aujourd'hui. Ben, c'est pas vrai. Nous sommes à la Croix-Rousse, là, c'est le code de Radio Canus à la Croix-Rousse. On s'est vu tout à l'heure au CEDRA, que c'est ce nouveau local des centres de documentation et de recherche sur les alternatives sociales. Il y a toujours la Plume Noire, rue Pierre Blanc. Il y a toujours le local de la Santé, rue Burdeau. Il y a toujours MAB et les ateliers de création libertaire sur lesquels on reviendra à rue Burdeau. La Maison de l'écologie. Il y a les locaux de la fédération, de l'atelier de... des ateliers où il y a silence, sortir du nucléaire, etc. Dire que rien ne se passe à la Croix-Rousse, c'est vraiment étrange et un peu bizarre, parce que la Croix-Rousse représente à aujourd'hui encore le quartier alternatif où il y a beaucoup d'activités. J'en ai nommé quelques-unes, mais on pourrait continuer, la liste est longue, ça va de Cabiria, Rupture, des restaurants, encore des cafés, etc.
D'accord, mais en fait ce que je voulais dire c'est voilà. C'est qu'il y avait apparemment plus de choses à l'époque.
Non,
non.
Je ne crois pas qu'il y avait plus de choses à l'époque, et ça, c'est un peu un mythe. C'est-à-dire que quand on parle du passé, et comme ton émission s'appelle le prolétariat, honneur du prolétariat. En fait, ce mot prolétariat, ça nous fait plaisir, comme ça nous fait plaisir le peuple. Mais moi, si on devait discuter sur la sémantique, sur le sens des choses. Prolétariat, peuple, aujourd'hui, ça me dit rien de tout. Par contre, effectivement, je peux comprendre ce que tu veux entendre par là, mais c'est une référence mythique à quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien comment définir ce qui se passe autour de nous, et donc on cherche des références dans le passé pour être plus ancré dans l'histoire. Or, le mot que j'utilise aujourd'hui, c'est effectivement ce qui convient le mieux un peu à la mouvance que je connais le mieux, dans laquelle j'ai participé, c'est la mouvance alternative, bien que ma culture est anarchiste et mes activités sont plutôt liées à tout ce qui relève de mouvements et de mouvances libertaires. Mais je me reconnais, disons, de manière plus générale, dans tout ce qui vient du monde alternatif, des activités alternatives, et celles-ci, elles sont pas plus nombreuses aujourd'hui qu'hier. On a l'impression, parce qu'on a créé un mythe, et probablement j'ai contribué avec mon livre Le Rêve au quotidien à créer un peu ce mythe du quartier où il y avait plein de choses, mais quand je vois avec les personnes qui s'intéresse au quartier, on voit qu'il y a toujours énormément d'activités, toujours énormément de lieux où l'alternative sociale, elle est mise en place à des degrés différents. Naturellement, il n'existe pas le lieu alternatif par excellence, encore que Radio Canu, elle pourrait l'être. Mais il y en a tellement de lieux que je crois que on devrait faire une émission peut-être contradictoire avec d'autres personnes pour qu'ils puissent nous s'expliquer pourquoi on continue à penser à la Croix-Rousse dans le passé et pas dans ses activités quotidiennes. Dernièrement, ceux qui lisent Le Progrès ont vu qu'il y a un journaliste qui fait beaucoup de photos du quartier est venu m'interroger, me demander ce que j'en pensais. Moi-même, grâce à Jean-Marc Bonnard, qui s'occupe des ateliers de création libertaire avec moi, on a créé un blog où quotidiennement j'envoie des photos qui retranscrivent en image ce qui se passe dans le quartier. Et je vois que tous les jours il y a de nouveaux slogans, il y a de nouveaux graffitis poétiques et poétiques. Régulièrement, il y a quelques activités nouvelles qui se créent, d'autres qui meurent de leur belle mort, mais rien ne s'est arrêté. On fonctionne sur l'idée que dans le passé, il y avait plus de choses parce que le passé, il représente quelque chose de sûr. Le présent, c'est incertain et le futur, c'est à deviner. Et donc là, je crois que c'est dommage qu'on continue à se poser cette question. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas autant d'activités qu'avant, etc. Tout simplement, je dis que si quelqu'un me donne des chiffres, des noms, des activités qui puissent me démontrer que la Croix-Rousse n'est pas le quartier alternatif par excellence, je vais bien en discuter avec lui.
D'accord, on va essayer de le trouver. Voilà. Donc maintenant, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Hourra. Voilà, on vient d'entendre Suicide Commando, donc qui nous a interprété One Nation Under God, qui a été remixé sympathiquement par Assemblage 23. Bon, c'est pas Assemblage 23, c'est Assemblage 23, un truc comme ça, mais c'est pas mon truc, moi, l'anglais. Donc Suicide Commando est tout simplement un groupe belge qui pratique le mouvement musical EBM, qui est l'Electro Body Music, qui est, je sais pas, un revival d'indus mélangé à la New Wave, quelque chose comme ça. Bon, désolé pour les puristes, mais c'est ce que je vais dire pour l'EBM. Donc, ce titre est... Le titre du morceau One Nation Under God, c'est extrait d'un discours de Bush qu'il a fait à l'occasion... c'était avant la guerre en Irak, en fait. C'était, je crois, son discours de politique générale. Et voilà, le but de la chanson, c'est évidemment... de dénoncer l'impérialisme américain. C'est pas du tout de dire « Ouais, c'est génial d'avoir une nation. » Enfin, c'est pas du tout pro-Bush comme chanson. Et voilà, donc ce groupe Suicide Commando a aussi la particularité d'avoir beaucoup de morceaux qui dénoncent la maltraitance, le viol, la religion. Ils sont en faveur de l'euthanasie. Enfin voilà, c'est très politiquement correct. Tout va bien. Voilà, voilà. Donc, on va reprendre un peu où on s'était arrêté avec Mimo. Et ma question suivante, c'est évidemment sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a les locaux de l'atelier de création libertaire. Et si tu peux nous raconter un peu la genèse, comment ça a commencé, tout ça, après que tu aies débarqué sur les pentes et que tu travaillais au restaurant. Et... Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, donc quand je suis arrivé à la Croix-Rousse, en fait, les locaux du Tresor Pierre Blanc, que pendant des années on représentait un peu l'emblème des anarchistes, le repère des anarchistes lyonnais. Là, il y avait un petit groupe de personnes qui avaient commencé depuis 1973 à publier un journal qui s'appelait à l'époque « Information recueillie à Lyon », IRL. Donc, c'était les sigles. Et tout de suite, quand je suis arrivé, outre donc le fait de travailler dans ce restaurant autogéré et rue Burdeau, j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce journal et à toutes les autres activités des libertaires à ce moment-là. Ce journal, donc on a continué à le faire vivre pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 1990 environ. Et petit à petit, on s'est un peu fatigué. On était un petit groupe de gens avec lesquels on se voyait tous les jeudis soirs, et là, depuis 32 ans, je me vois encore avec Jean-Marc Bonnard, Alain Thévenet, deux, trois personnes. On se voit encore 32 ans après, tous les jeudis soirs. Quand je suis en Italie en vacances, on se téléphone. Voilà l'alternative. Dans le quotidien, se construit aussi par... des rendez-vous réguliers, par un travail assidu, acharné, comme des vrais prolétaires. Comme tu le disais, avec cette passion qui nous animait, donc, dans la publication du journal, de ce journal qu'on publiait à une époque où il n'y avait pas encore les outils puissants de la technologie moderne avec les ordinateurs et tout ça, on avait des machines... électronique certes, mais avec une mémoire de 4000 signes. Il fallait faire tout à la main, ça nous prenait des week-ends. Heureusement qu'on était jeunes et forts et qu'on y passait beaucoup beaucoup de temps pour faire des montages, bricoler effectivement, mais le résultat était assez satisfaisant pour nous, ça nous plaisait, ça nous enthousiasmait, tout ça. Sauf que pour faire un journal et le faire vivre d'une manière assez dynamique, il faut avoir un peu du sang neuf tout le temps, avoir envie de se dépenser beaucoup, avoir de nouvelles idées. Et en fait, à un moment donné, après 90 numéros, on a décidé d'abandonner le journal, d'autant plus que en 1979, donc il y a juste 30 ans, donc tu as bien fait de m'inviter aujourd'hui, on a créé une maison d'édition, on a publié en fait un premier titre qui vaut son pesant d'or parce que il s'intitulait Interrogation sur l'autogestion. C'est toujours d'actualité. Et là, on avait publié ce premier livre un petit peu parce que, entre autres choses, moi j'avais beaucoup de liens avec des Italiens qui avaient une maison d'édition à ce moment-là. À Milan, ils ont toujours une maison d'édition, on a changé de nom. Avant, il s'appelait Antistat, maintenant il s'appelle Eleutera. Et en fait, j'avais envie de les copier un petit peu, j'étais un peu comme ça, jaloux de leur capacité, leur connaissance, leur savoir-faire. Ils organisaient aussi beaucoup de colloques internationaux. Et un de ces colloques, c'était justement un colloque sur l'autogestion. Et là, on leur avait piqué quelques articles. J'avais écrit à ce moment-là un premier article sur l'étable rabattue, que c'était le deuxième restaurant autogéré dans lequel après j'avais travaillé, qui se trouvait rue Baudin. Et donc, là, on a eu envie de publier ce titre, et après, petit à petit, on a continué à publier d'autres titres, et petit à petit, on a pris goût à travailler plus pour la maison d'édition que pour le journal, parce que pour publier des livres, bien qu'il y ait beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, mais il n'y a pas cette pression qu'on a quand il faut sortir, mettons, un journal tous les deux mois ou tous les mois, et il faut en fait à un moment donné finir, bâcler, terminer le travail coûte que coûte, et ça c'était assez stressant à un moment donné, ou pour nous c'était assez stressant, et on avait envie de se lancer dans une activité entre guillemets moins stressante, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, publier des livres, même si on se fixe des dates, on n'a pas besoin de le publier le 15 du mois, surtout si on le fait avec l'objectif de publier des idées et pas de vendre de la marchandise. Donc, cette activité a pris corps autour de ce premier titre et d'autres titres qui avaient comme objectif de présenter un anarchisme contemporain. Et c'était un peu ça notre pari, c'est de dire que dans les années donc 80, disons, parce qu'on a commencé on a commencé à publier en 1979, tout le long des années 80, on a essayé de trouver des titres, des livres qui pouvaient représenter ce que nous considérions à l'époque comme un anarchisme contemporain qui devait être, qui était en fait un anarchisme qui se positionnait au-delà des idéologies trop fermés des unes et des autres de ce type d'idéologie. Moi je suis communiste anarchiste, je suis anarcho-syndicaliste, je suis individualiste anarchiste. On cherchait, nous, à mettre en avant une culture libertaire, et c'est un peu ça qui nous a poussé. C'était notre passion pendant ces 30 ans, de dire qu'il y avait et il y a une culture libertaire à faire connaître, à développer. Et depuis, donc, on n'a pas arrêté, malgré qu'il y ait eu des moments un peu de comme ça de où on n'a pas eu les moyens de faire ce qu'on voulait, mais à ce jour on a publié plus de 130 titres. On a organisé de nombreux colloques à la fois ici dans le quartier, par exemple à la Condition des Soies, mais aussi à l'université à Grenoble ou à Toulouse. ou en collaboration avec d'autres groupes ou d'autres d'autres maisons d'édition en France ou ailleurs. Voilà en bref, sans images.
Voilà, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est donc tu parles de culture libertaire, est-ce que la maison d'édition est cantonnée uniquement à ce type de sujet ou alors vous êtes diversifié sur d'autres, enfin diversifié, je sais pas, sur d'autres thèmes ou...
Non, disons que on a publié tout ce que nous avons publié, nous semble-t-il, fait partie de la culture libertaire en général, mais ce n'est pas le thème de la culture libertaire. Je m'explique. En fait, pour nous, ce qu'on entend par culture libertaire, ce qu'on a encore aujourd'hui, malgré qu'on a évolué, mais après, est-ce qu'on a le temps de rentrer dans les considérations plus précises sur ça, on verra. Mais en fait, culture libertaire, pour nous, c'est à la fois une réflexion sur le militantisme anarchiste, que la publication de haïkus ou de photographies de la Croix-Rousse, comme on l'a fait avec Laurent Combe, qui est un des cinémateurs de Radio Canu, avec le livre donc La Croix-Rousse alternative, que avec d'autres livres qui, par exemple, c'est Le trésor des méchancetés d'un de nos auteurs très connus qui s'appelle Jean-Manuel Tremont, ou en passant par Les Squats, des livres plus contemporains, et ou encore avec des livres sur la prison, des livres sur l'écologie, etc. En fait, la culture libertaire, ce n'est pas un thème en soi, mais pour nous, représente un ensemble d'aspects de la pensée et des activités liées à la fois à au mouvement spécifiquement anarchiste, mais aussi à une pensée qu'on peut appeler anti-autoritaire, alternative, dans ces aspects pluriels. Et qui on peut pas limiter à un seul type de culture.
D'accord. Eh bien maintenant, vous n'allez jamais deviner ce qui va se passer. Eh bien, on va écouter de la musique. Get things right. Hey, salut. Donc, on vient d'écouter, là, maintenant, à Radio Canu 102.2, Babyland, Nowadays. Donc, c'est un groupe qui s'autoproclame Electronic Junk Punk et qui nous vient de Los Angeles. Voilà, nous sommes toujours avec Mimo, qui nous parle de son activité au sein des ateliers de création libertaire. Donc, après l'historique, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire, si tu peux nous expliquer le fonctionnement de cette maison d'édition, comment vous répartissez les tâches, qui est impliqué, comment... voilà, un peu, si tu peux nous parler de tout ça.
Donc, c'est simple. Depuis le départ, nous sommes quelques-uns.
Entre 3 et 6, on a été. Donc, c'est un groupe à géométrie variable, disons comme cela. En gros, on se réunit, donc, comme je disais tout à l'heure, tous les jeudis soirs. Pour essayer donc de voir l'ensemble des travaux qui sont nécessaires pour faire vivre la maison d'édition. Nous sommes depuis 30 ans qu'on fait fonctionner cette activité, on n'a jamais eu de salariés. Donc tout ce travail, plus que du bénévolat, c'est du militantisme en fait. Je considère que les deux heures que je passe par jour pour réfléchir à ce qu'il faut faire, pour expédier des livres, pour faire des réunions, pour maintenir des contacts avec les personnes qui nous aident ou des librairies, etc., pour moi, c'est du militantisme, en fait. C'est mon militantisme quotidien, et ainsi que pour les personnes qui participent depuis longtemps. Et là, c'est une activité qu'on peut définir en autogestion, dans le sens que le petit groupe qui s'en occupe actuellement, disons 3 personnes, se réunit, décide toujours ensemble sur les livres qu'il faut publier, les textes qu'on voudrait publier d'abord, voir les moyens qu'on a pour le faire, et on se répartit un peu les tâches pour le réaliser. Ces tâches sont naturellement la mise en page, la correction, le travail graphique qu'il faut faire pour les couvertures, mais aussi les relations qu'on peut avoir avec des librairies ou des groupes alternatifs ou pas qui nous diffusent un peu dans la France entière. Donc les décisions sont prises ensemble. Bon, naturellement, parfois, on n'est pas d'accord sur telle et telle démarche à faire. Du coup, il peut y avoir l'idée qu'on n'est pas complètement satisfait parce qu'on aurait voulu qu'un titre sorte plus tôt, ou bien qu'on aurait souhaité publier un autre titre à la place de celui qui vient de sortir. Mais en gros, on peut dire que l'enthousiasme qui nous a poussé à créer cette maison d'édition, il est toujours là, puisque on a toujours en moyenne 4-5 titres qu'on publie chaque année. On en publie entre 500 exemplaires ou 2000 exemplaires. Et en fait, on se répartit un peu le travail, puisqu'il y a quelqu'un qui aime mieux faire le travail de mise en page et de correction, quelqu'un d'autre qui a plus de lecture, encore une autre personne, probablement il va maintenir des contacts avec les personnes qui veulent travailler avec nous. Donc c'est une forme d'autogestion, mais il ne faut pas être non plus, il ne faut pas croire que l'autogestion c'est quelque chose de facile. C'est pas simple de se répartir les tâches d'une manière équitable. Nous essayons depuis 30 ans dans ce domaine de trouver les moyens pour assurer au maximum les activités collectivement. Parfois on arrive complètement, on a l'impression que tout le monde participe à 100% à ce qui est la vie de cette maison d'édition. Parfois on a l'impression que la participation n'est pas la même, mais bon, il faut accepter l'idée que, y compris dans des groupes autogérés, la participation ne sera jamais équitable à 100%, ne sera jamais pareille à 100%. On a chacun de nous des vies, à la fois du travail, ne serait-ce que chacun de nous a une forme de travail différent, une vie de famille différente. Il y en a qui vivent des périodes de chômage, d'autres pas. Donc l'autogestion, effectivement, elle est là, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, donc c'est ça qui nous fait vivre, nous permet de maintenir le cap malgré les problèmes qu'on a pu avoir quelquefois, des périodes où économiquement n'était pas facile surmonter les pentes. C'est pas la même chose que les pentes de l'Écrorousse, parce que là les pentes c'est l'argent qu'il faut donner à l'imprimeur pour se payer le tirage d'un livre. Et là, actuellement, nous vivons une période où ça va plutôt bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Et d'ailleurs, s'il y avait des personnes qui avaient un peu d'énergie à nous adonner, voilà, ils pourraient nous donner des coups de main éventuellement, aussi bien à ce qui peut être le travail pratique, technique, que à la réflexion sur des textes à publier dans les mois, voire les années à venir.
D'accord. Eh ben, on va enchaîner avec une petite pause musicale. Donc, j'écoutais de la musique chez moi il n'y a pas si longtemps, et je suis tombé sur une chanson et je me suis dit, mais fichtre, c'est la vie de Julien Coupa. Et je suis sûr que quelque part, cette chanson, ben, comment vous expliquer? Je pense qu'elle a un peu inspiré la rédaction du livre L'insurrection qui vient. Donc, je ne vous révèle pas l'identité du groupe tout de suite. Ça, je vous le dirai après. Et je vous laisse découvrir un peu ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être que ce groupe? Voilà. Donc, ben, à vous de voir.
Où elle, à Santa Fe, les plus voyous, alors. regarde à toi.
Voilà, donc tout le monde a reconnu le groupe Indochine qui nous a interprété Monte Cristo. Et donc évidemment, Julien Coupa, comme Monte Cristo, a été mis en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis. Donc voilà, c'est le clin d'œil. Et quand on écoute la chanson, il y a plein d'aspects qui rappellent ce fait divers, quoi, on va dire ça comme ça. Donc je suis toujours avec Mimo, qui représente l'atelier de création libertaire. Donc là, je vais lui demander un peu de conclure, de nous parler juste de l'actualité de l'ACL et quels sont les événements, les dernières sorties et voilà.
Oui, donc on peut dire les dernières publications. Il y a un livre qui s'appelle Aventure Squat et c'est un peu une histoire, une analyse un peu de l'histoire d'un point de vue sociologique des squats à Lyon ces dernières années. Il y a un livre d'Eduardo Colombo qui s'intitule La philosophie politique de l'anarchie et un livre qui est paru aussi il y a quelques semaines, il y a un mois ou deux mois. C'est un livre d'un surréaliste qui s'appelle Ma chandelle est vive. Et nous préparons naturellement des livres, dont un livre qui s'appelle Anarchie et philosophie, qui en fait c'est le résultat de ce sont des textes qui ont été présentés lors d'une rencontre que j'ai organisée au CEDRA, mon autre lieu d'activité quotidienne, donc le Centre de documentation et de recherche sur les alternatives sociales, où on a organisé en décembre un débat qui s'appelait Anarchie et philosophie, et les textes des personnes qui ont participé à ce débat vont être publiés très prochainement, d'ici un mois ou deux mois. On a tout un tas de titres devant nous, dont je tiens à rappeler, par exemple, un texte sur une femme qui s'appelait Virginie Barbet et qui avait été ici à Lyon à l'époque de la première internationale et dont on ne se souvient pas bien qui était, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Nous, on a retrouvé quelques-uns de ses textes et on va un peu se rappeler de cette personne par ce biais-là. Donc, nous continuons notre activité en essayant de créer ce fil entre hier, donc ce qui était l'anarchisme, la culture, la vie libertaire hier, et ce qui est l'anarchisme et la vie quotidienne des alternatives et des libertaires aujourd'hui, en espérant qu'on aura le temps de trouver le temps et les moyens pour durer encore 30 ans.
Ben, on le souhaite. Donc aussi, je crois qu'il y a un débat le 21 mars au CEDRAS sur les squats, je crois, non?
Oui, ben, justement, donc au CEDRAS, on organise le 21 mars un débat que peut-être on pourrait enregistrer et retransmettre ici, et avec des personnes qui ont écrit des livres sur les squats. Et ça aura lieu donc le 21 mars à 15h au CEDRAS, 27 Montée Saint-Sébastien.
D'accord. Donc là, je suis obligé de rendre l'antenne. On me force à rendre l'antenne. On serait bien resté plus longtemps, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, Mimo, je voudrais te remercier d'être passé pour ma toute première fois.
Je te remercie à toi de m'avoir invité.
En tout cas, tu es un bon client, hein. Pas besoin de te relancer, tu dis tout ce qu'il y a à dire. Et voilà, donc c'était mon premier jour et c'était pas trop mal, quoi, on va dire. Hein. Pour se quitter, on va écouter un petit morceau de musique en toute simplicité. Voilà, évidemment, tout s'éteint juste quand je veux commencer à lancer la musique. Du coup, je suis obligé d'habilement meubler. Voilà, ça va repartir. Parfait. Et c'est bien parce que...